19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beur FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beur FM, 19h pétante. Et oui, c'est l'heure de votre quotidienne sportive, Time Sport du lundi au vendredi. Au menu de cette émission en ce jeudi 1er avril. Et oui, nous sommes bien là, il n'y a pas de poisson d'avril. Peut-être Yacine ou même toute l'équipe va les balancer ce soir. Mais nous, on va parler de cette fameuse France qui s'en sort sans même briller face à la Bosnie-Herzégovine. On aura, pour la seconde fois sur cette antenne de Beur FM, Johnny Fudal, justement, avec son magnifique livre « Razdok ». Eh oui, on reviendra là-dessus avec lui, ça c'est promis, chers auditrices et auditeurs de Beur FM. L'Allemagne, très très loin du compte face à la Macédoine, sans oublier Lyon qui se prépare à une révolution. Eh oui, cette révolution, Garcia out, et peut-être bonjour Monsieur Galtier. Et enfin, on parlera de Francis Ngannou, itinéraire d'un champion de l'UFC, cette fameuse ligue américaine, nord-américaine d'arts martiaux, oui.
C'est le MMA,
voilà, c'est
le
bien ça.
Mixed Martial Arts.
C'est ça. Voilà, j'avais pas le. Tu viens de le donner. Merci, Mourad.
Oui,
l'UFC. Non, on les laisse tranquilles, l'UFC, que choisir.
Je sais pas.
N'oubliez pas le numéro du standard, le 01 53 48 3000. C'est parti, Gogo Time Sport.
Time Sport.
Eh oui, non, j'attendais qu'ils nous le disent. Ce soir, avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beur FM, on aura Louis-Marie. Comment ça va, Louis-Marie?
Bah, ça va très bien. On va parler de l'équipe de France et je vais m'envoyer un peu des fleurs. J'avais annoncé ce score serré et cette victoire d'un but d'écart. Finalement, ouais, on y est. Donc, on m'avait expliqué qu'il fallait gagner largement. Bah, non, c'est pas simple le football. C'est pas simple les qualifications. Et d'ailleurs, on verra avec l'Allemagne que pour les autres, c'est encore moins simple.
Toto est avec nous ce soir. Comment ça va?
Salut Bilal, comment tu vas?
Je vais très très bien. Ça va?
Eh bah, super.
Ouais, le sourire, tout comme Yacine. Alors là, il va falloir nous expliquer un peu cette dégaine.
Pourquoi parler de l'équipe de France?
Ouais.
On peut parler de l'Arménie, on peut parler de l'Angleterre.
On peut parler de toutes les nations. Oui, on peut parler de toutes les nations, bien sûr.
On ne parle pas de
l'équipe de France alors, c'est ça?
Moi, je préfère parler de l'Arménie.
Ok, bah, tu parleras de l'Arménie. Ben Mourad, oui, tu parleras aussi de qui? Vas-y.
On peut parler aussi des poissons d'avril du 1er avril.
Ah bah,
j'espère qu'il n'y en aura pas ce soir sur ce plateau.
Ben oui, Mourad.
Je sais pas vous comment vous l'avez pris, mais moi, ça commence un peu à me casser les pieds, ces poissons d'avril. Je trouve un peu ridicule.
Allez,
c'est trop utilisé.
Un peu du
Mourad.
Ouais,
quand c'est bien fait, j'aime bien.
Il y a le poisson d'avril qu'on a sacrifié hier au Stade de France. Après l'arrivée de Karim Benzema avec Johnson Jet privé.
Ah oui, effectivement, bien sûr. Ça, c'était une exclusivité Shoot Africa.
Voilà,
exactement.
Exact.
Ouais. Ça, c'était pas mal, c'est vrai. On va s'attarder sur ces éliminatoires de la Coupe du Monde, cette phase finale 2022 qui se jouera au Qatar, si tout va bien.
Ouais.
Time Sport, le ras-le-bol.
Oui, Louis-Marie, bon pronostic peut-être. Timide victoire de l'équipe de France face à cette sélection, excusez-moi, bosniaque. Eh oui.
Bah, en fait, est-ce qu'on est vraiment surpris de voir que les joueurs, quand ils ont à jouer trois matchs difficiles, un peu des coupes-gorges, dans des circonstances difficiles, alors qu'ils ont une semaine après le plus grand rendez-vous de leur saison avec la Ligue des Champions, est-ce qu'on est surpris qu'ils donnent pas à fond, qu'ils soient moyens, qu'ils soient un petit peu avec le frein à main? Bah finalement non, ils ont fait le taf, on peut leur reprocher beaucoup de choses, on peut dire ils jouent pas bien, on peut dire on prend pas de plaisir à les voir jouer, mais à l'arrivée, c'est 7 points sur 9, et quand on dit toujours, quand je me regarde, je me désole, et quand je me compare, je me console, et ben quand je me compare aux Allemands ce soir, ben je me console finalement, les Bleus ça joue pas spectaculaire.
Tu te compares à l'Allemagne à la mauvaise période.
Non mais,
tu peux te comparer à l'Arménie aussi, qui sont à 9 points.
Mais très bien, mais l'Arménie joue leur vie en ce moment, la France joue pas sa vie. Les joueurs de l'équipe de France, ils jouent pas leur vie parce que dans deux semaines, ils jouent tous les quarts de finale de Ligue des Champions et c'est la principale le moment de leur saison.
Si je peux rebondir sur un proverbe, comparaison n'est pas raison aussi.
On est d'accord.
Et aussi, moi j'avais toujours, et encore une fois, mais c'est un éternel recommencement, j'avais l'infime espoir de voir la manière associée au résultat. Et encore une fois, on a été déçus. Là,
tu parles de
déplacement coupe-gorge. Ben justement, c'est le moment. Pourquoi pas de mettre en avant la qualité au détriment du résultat? Parce que les points, tu vas les prendre.
Moi, je vais aussi prendre une petite citation.
Je t'en prie.
T'en vas la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se brise. Moi, j'en ai ma claque de cette équipe de France. Enfin, en tout cas, de ce type de jeu. Si, alors, moi, tu sais, il n'y a pas longtemps, j'avais encore fait un billet d'humeur là-dessus, et on m'a reproché de me dire, mais pourquoi tu continues de regarder l'équipe de France? Et c'est vrai qu'à un moment donné,
peut-être que ce sera le déclic de la manière, de la qualité de jeu, peut-être que
au bout d'un moment, un sélectionneur qui se fout du rendu visuel, du spectacle qui va être proposé, je vois pas pourquoi moi en tant que spectateur je vais devoir me taper un match de 90 minutes.
Mais tant que les gens regardent, tant que les gens regardent et les gens regardent tous, et quand tu vois les audiences de l'équipe de France fait plus d'audience en gagnant et jouant mal qu'en jouant bien et en perdant.
Celui qui se contente de simplement se dire bon, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, sans s'attarder finalement sur le contenu, ce que moi j'appelle pas péjorativement le supporter de base, dans le sens il vient chercher simplement.
Moi, tu sais comment je les appelle,
bah, l'émotion, moi, finalement l'émotion de la victoire ou de la défaite.
Celui qui recherche le contenu, je suis désolé, il va s'emmerder devant un match comme celui-là. Et même, je vais même te dire, même celui qui cherche pas le contenu.
Mais on est d'accord que c'était des purges.
Il attend la fin du match, savoir quel va être le dénouement et terminé.
Toto, bien sûr que c'était des purges. Mais la question, elle est de savoir, est-ce que c'est normal en cette période que on puisse avoir des purges? Moi, je considère que, effectivement.
Quelle période?
Non, mais le fait que ça se joue en mois de mars, en fait, c'est vraiment sur ça que j'insiste.
Des purges.
Mais à cette période.
Ça, c'est la meilleure saison pour pratiquer le football.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je te disais juste, c'est que finalement.
C'est le début du printemps.
C'est bien sûr que c'est le début du printemps, mais les mecs, ils ont d'autres objectifs plus importants en vue. C'est le début des qualifs. Ils savent très bien que s'ils font un faux pas, ils pourront le rattraper. Je vous dis pas que c'est bien, je vous dis que c'est humain et que c'est normal que les. Quand on voit que Lewandowski se pète,
le problème, c'est que
Sergio Ramos se pète.
C'est la norme, c'est devenu la norme, la purge.
Ça, c'est encore un autre débat. On parle des trois matchs de cette semaine.
Moi,
ce que j'ai juste, c'est que cette semaine, il y a des sélections qui ont perdu des joueurs, qui ont blessé des joueurs essentiels dans leur club. Est-ce que c'était bien la peine de tout donner en Andorre pour, ou je sais plus où c'était, je crois que c'était en Andorre, pour Lewandowski? Pour
Lewandowski
et se casser pour les quarts de finale. Pareil pour Sergio Ramos qui sera pas là.
C'est ça la patrie.
Mais ça fait partie du football. Ça existe depuis toujours.
Mais non, mais bien sûr, je dis juste que c'est pour
ce fameux équilibre entre le football des nations et le football de club. Moi, j'ai l'impression. Pour rebondir sur ce qu'a dit Toto, j'ai l'impression qu'on fait face aujourd'hui aux ayatollahs du résultat. Est-ce qu'on peut aujourd'hui critiquer le jeu de Didier Deschamps sans pour autant être taxé d'anti-Deschamps ou de pro-Benzema? Moi, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui, comment est-ce que t'expliques, Louis-Marie, toi qui es fan, peut-être que le contexte est aussi important, que Mbappé finisse à zéro but?
Ah non, mais je suis d'accord
que Giroud soit indispensable dans cette équipe de France, sachant qu'il est, même pas titulaire, il est sur le banc à Chelsea, sachant qu'on a toujours, c'est Sissoko qui rentre en cours de jeu, comme si c'était du piment d'Espelette pour relever un peu son plat. On a toujours les mêmes ingrédients qui reviennent, c'est Reba Bartif, moi c'est Bourrand, et je me demande autour de ce plateau, est-ce que vous en avez pas marre? J'ai compris que Toto, voilà, exactement. J'ai compris pour Toto qu'il en avait marre.
Dans la transition, il parle du piment d'Espelette et que Mbappé il est camerounais parce que le piment noir du
Cameroun. Ah,
mais
le
piment noir du Cameroun.
Il finit à zéro but, ce fameux piment noir.
Alors, vas-y.
Juste pour parler
de France. Il y a une réaction en plus.
Moi, j'ai regardé les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde, c'est la compétition la plus importante pour tout le monde. Et si on imaginait que la France faisait 10 000 km pour aller jouer ses matchs, comment ça va se passer pour eux? Donc ils pourront plus marcher.
Mais c'est pas le sujet.
Ouais. Tu me parles de ma place.
Non. Moi je t'ai parlé juste de la motivation.
La ouais. Alors il se met à la place.
Mais je te parle juste que en ce moment.
Marie se met toujours à la place.
En ce moment.
Rien du tout.
En ce moment.
Uniquement
c'est juste
le jeu au Stade de France.
Il faut aller se battre pour les qualifs et c'est justement légitime d'aller au Kazakhstan, d'aller en Bosnie, jouer contre Edin Dzeko qui a marqué plus de buts qu'Olivier Giroud pour sa nation, de ne pas voilà justement d'avoir des complexes de supériorité vis-à-vis de ces nations-là. Aujourd'hui on parlera un peu. On parlera de l'Allemagne un peu plus tard.
On va parler de
l'écart et l'étau se resserre entre les grandes nations et les petites écuries. Aujourd'hui, on est dans un microcosme.
Mais on peut pas justement.
Les Luxembourgeois ont témoigné justement.
On peut pas leur en vouloir d'avoir été sérieux.
Le problème
et d'avoir fait passer d'abord.
Alors,
le résultat, ils ont été très sérieux. Je suis d'accord qu'ils n'ont pas mis les piments, mais ils ont fait.
Toi, tu mets la charrue avant les bœufs. Le résultat découle de la qualité de jeu.
On va arrêter de parler des bœufs, des piments. On a Malika Yanis qui nous dit merci pour la recette avec le piment noir. Je sais pas d'où tu le sens. Yacine, tu t'arrêtes avec le piment noir.
Le piment de Cameroun, c'est l'équivalent de l'or.
Ah bah ok.
Beaucoup de gens le savent pas.
Ok.
Il y a pas un grand chef qui.
Ne rapporte pas. Il est spécialiste dans la rissa. C'est
une leçon de culinaire qu'on peut donner aux gens.
Alors justement.
Merci pour l'information.
Merci pour l'information, Yacine.
Merci
à notre auditeur Abdel. Alors écoute, qui nous dit, si tu as une attache, Toto, à l'équipe, à l'équipe qu'elle gagne en jouant mal, tu vas accepter, mais tu vas être plus critique. Et si tu regardes un match où tu n'as pas d'attache et où tu espères voir de la qualité dans le jeu, quoi.
Mais bien évidemment, celui qui aime son équipe, il va être exigeant avec son équipe. Et moi, le problème, tu vois, Louis-Marie, moi, ce que tu dis.
Toto, il aime beaucoup l'équipe de France.
Ce que tu dis, j'entends rien.
Laisse-le terminer, quand même.
Non, mais. Tu vois, moi j'entends ce que tu me dis. C'est-à-dire que finalement, on a le droit d'avoir des purges à un moment donné. Peut-être qu'on est dans une période où on pourrait peut-être se le permettre vu qu'on est assez facile. Le problème, c'est qu'on en a eu trop. Et que
ça dure depuis 2018. Voilà, à part le match du Portugal à l'extérieur il y a quelques mois, depuis 2018. Qu'est-ce qu'on a vu d'un point de vue du contenu, d'un point de vue de la manière?
C'est même pas 2018.
Non, mais bien avant, mais encore, je suis.
Depuis 2016. Depuis 2016.
Après, c'est le style de jeu de Deschamps.
Là, je reste optimiste.
On aurait dû passer à autre chose.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous soyez peut-être un peu naïf à vous dire j'attends mieux de Deschamps. On n'aura jamais mieux, ça n'est pas son style. Si tu veux avoir du beau jeu, alors, tu vas pas demander à Deschamps,
non,
tu vas pas demander à Mourinho.
C'est grave, ouais.
J'attends mieux que Deschamps. Tu veux voir.
Alors, mais ça c'est encore un débat.
Yacine, reviens à toi Yacine.
Ce qu'il vient de dire, c'est très grave.
Alors pourquoi?
Avec quand on a le potentiel que possède l'équipe de France, je pense qu'on peut produire le plus beau jeu.
Mais le potentiel, c'est quoi? C'est de gagner.
Moi, ce que je reproche à Deschamps,
c'est pas le but de gagner. C'est pas le but de gagner. Il faut gagner avec l'art et la manière.
Moi, ce que je reproche à Deschamps, c'est qu'il a une Ferrari. Il a une Ferrari sous la main. Il la conduit comme un camion.
Oui, mais n'empêche que la Ferrari a gagné la course.
C'est tout.
Le camion a gagné la course.
Le camion a gagné la course.
Des résultats en tête là. C'est trop orienté sur le résultat.
La course n'est pas finie. La course n'est pas finie.
Mais à un moment donné, tu vois, en plus, on traverse des périodes difficiles depuis un an.
C'est
qu'on a besoin, on en a besoin. L'équipe de France appartient aussi à ses supporters. Et quand on se poste devant la télé, c'est nous qui faisons aussi ce football professionnel. On soutient une équipe, on attend en retour,
mais
on respecte.
Mais tu as parfaitement raison sur le fait que ce soit les supporters.
Ne regardons plus les matchs. Moi, je propose de ne plus regarder les matchs. Je propose de télécharger une application pour suivre les matchs en direct, de se mettre des alertes sur l'équipe de France, d'aller sur Wikipédia, de discuter statistiques et de plus analyser le contenu parce qu'on subit aujourd'hui une dictature. Comme je l'ai dit, il y a des ayatollahs du résultat.
Mais
je
ne sais pas si Marie en est sortie.
On ne peut pas critiquer justement le contenu aujourd'hui et ça devient insupportable.
Mais Marie ayatollah. Mais tu ne peux pas dire ça.
Je suis chauvin de l'équipe d'Algérie. Qu'elle joue bien ou qu'elle ne joue pas bien, moi je m'en fous, l'essentiel.
Yacine, la première mi-temps de l'Algérie, moi aujourd'hui, je n'étais pas satisfait. Moi, je n'étais pas satisfait de la première mi-temps de l'Algérie.
Qu'elle gagne avec la manière.
Je n'étais pas satisfait de la première mi-temps de l'Algérie. Même si gagner 1-0, je n'étais pas satisfait. Si je fais le bilan à la fin du match, pour moi c'était première mi-temps Missig Miresin et deuxième mi-temps on a déroulé.
L'équipe de France, si on revient peut-être à l'Algérie.
Moi, je vais pas vous dire que en termes de jeu, je suis satisfait de l'équipe de France. C'est faux. Je m'ennuie comme vous devant les matchs. Il y a aucun problème à l'admettre. Après, la réalité, c'est que moi, je leur pardonne un peu plus à cette période qu'à d'autres. Mais le bilan qui est fait, que vous faites, que le jeu de l'équipe de Deschamps est pauvre. Ça a toujours été le cas, c'est un jeu vertical.
C'est l'équipe de Deschamps.
Mais c'est l'équipe de Deschamps.
C'est l'équipe à Furlan,
c'est pas l'équipe de France.
Oui, mais est-ce qu'elle gagnera? On ne sait pas. La réalité, c'est que malgré tout, un cuisinier, il fait ce qu'il sait faire. Il connaît ses recettes.
Bah justement,
les recettes de Deschamps, ce sont celles-ci dans toutes les équipes qu'il a faites.
Ce cuisinier-là, il a quand même des ingrédients assez nobles pour concocter des bons plats, on est d'accord.
Il n'empêche que malgré les ingrédients qu'il a...
Et il nous fait des pâtes au thon.
Mais il fait toujours les mêmes recettes, quelles que soient les équipes qu'il a menées. Donc, comme on ne peut pas faire les surpris aujourd'hui de dire l'équipe de France, ça joue avec un bloc bas, avec de la projection rapide.
Comment explique que Coman qui brille avec le Bayern de Munich aujourd'hui n'est que l'ombre de lui-même en équipe de France? Comment est-ce que tu expliques? Bon, Griezmann, j'ai l'impression
que les mecs n'ont pas le même temps de préparation collectivement en équipe nationale qu'en club. On peut pas.
Non, mais il y a des automatismes.
Il faut pas comparer les clubs aux équipes nationales. On sait très bien que les clubs peuvent beaucoup plus jouer.
Tu le faisais à l'instant. Moi, ce que je propose, c'est justement à Deschamps de mettre un minimum la qualité, le contenu au service du résultat. C'est tout. Je demande pas. Il y avait des bonnes choses.
On a eu des bons matchs.
Tout n'était pas jeté à la poubelle. Il y a eu des bons matchs. Mais c'était quand même amorphe. C'était quand même amorphe.
À te taper un euro là. Encore comme on s'est tapé la Coupe du Monde. C'est-à-dire que, ok, on a gagné, certes. Moi, je te dis honnêtement, mais j'ai passé les matchs les uns après les autres à m'emmerder et à avoir un bloc bas avec.
Mais il n'empêche, les émotions, elles étaient là. Moi, je me souviens d'Argentine-France. Alors, il y avait plein d'erreurs, il y avait plein de choses, mais c'est un match qui m'a donné beaucoup d'émotions. La finale m'a donné de l'émotion. Moi, j'ai pleuré à la finale. Donc, si j'ai ces émotions-là en juin, je suis bon.
Si t'as une émotion par an, franchement, tes soirées footballistiques, elles doivent être intéressantes.
Les émotions du jeu, tu vas avoir avec d'autres.
Alors,
il a dit
Marie,
l'équipe de Deschamps,
avec Yacine.
Il n'a pas dit l'équipe de France.
Oui.
Parce que s'il y avait l'équipe de France, il y aurait le meilleur joueur du monde dans cette équipe.
Le meilleur joueur du monde.
Le contraire, elle est français.
Exactement.
C'est un autre débat.
On va pas le relancer. C'est pas là.
Non, c'est un autre débat. Parce qu'il
fait ce qu'il veut.
Parce que l'équipe de France, elle est quand même
un sélectionneur. Heureusement qu'il fait ce qu'il veut.
Voilà.
Quand on voit la prestation d'Mbappé à ce poste, on se dit peut-être que Karim Benzema aurait toute sa place dans cette équipe.
Je la question que Benzema ait sa place.
Et là, on parle de système de jeu. Je parle pas d'affinité. Je parle pas des prestations de Karim Benzema au Real Madrid.
Même lui, Marie, est d'accord.
Pour la qualité du jeu.
Bien sûr. On est d'accord. Lui, Marie, est d'accord avec toi aussi.
Moi je dis juste que c'est un autre débat. C'est
France, le cas Benzema, Bosnie,
c'est un autre débat. L'équipe de France est quand même en mesure,
2022.
Avec l'effectif qu'elle a et l'effectif qu'elle peut avoir avec Enfin, on a quand même,
donc,
on a quand même,
retour de Benzema en équipe de France.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais où? J'ai dit que c'était.
Ah, ouais, je suis allé mentir, c'est un c'est ce que je disais tout à l'heure.
C'est vrai. Il n'y a plus à être pour ou contre, vu que ça n'arrivera pas.
C'est ce que je disais tout à l'heure, justement.
Toto et termine.
On est capable de faire du jeu, même si Benzema n'est pas là. Même, ce qui ne veut pas dire que si Benzema est là, bien évidemment. Moi, je prône le jeu. Benzema est en mesure de le faire. Maintenant. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on joue à la mesure de ce qu'on est capable de faire. Toi, tu nous dis, moi, l'important, c'est de manger, je suis calé et je m'en fous du reste. On veut aussi un peu la qualité. On a des produits de qualité. Faisons une
mais
belle tambouille.
Que le
qu'on
cuisinier,
se régale tous.
Mais c'est pas le cuisinier qui va vous donner ça. C'est pas son style de jeu.
Moi, je savais pas son sélectionneur.
Moi, je savais pas que Louis-Marie était adepte des fast-food. Moi, je le pensais comme un aristocrate. Justement.
Moi, on va arrêter.
Avec les bons plats au bon moment, les bons plats qu'il nous dit, avec l'apéro, etc. Mais là, il est très fast-food, en fait. Il est très vieux. Je suis assez déçu.
Merci.
Mais je suis un gueux, mon cher.
Merci. Yanis, le réalisateur. Un petit clin d'œil aussi à Jouba Houchen, notre rédacteur en chef. Et aussi à Farid Ouras, le community manager qui est toujours là, justement, à live tweeter cette fameuse émission de Tam Sport. On va arrêter. On a Zoher qui a l'impression de terminer avec Tam Sport. On est dans Tam culinaire là ce soir. Je sais pas. Ça parle de fast food. Ça parle de piment.
Bah, écoute,
oui,
Yassine. Vas-y, Yassine. Faire faim,
oui.
Exactement.
On parle du beau jeu. Moi, j'ai vu Arménie Roumanie. C'est un match à rebondissement. Et franchement, quand tu vois cette équipe arménienne jouer, j'ai envie. En plus, le stade était plein à craquer. Il y avait 10 000 personnes. Ça nous réconcilie avec le sport et avec la vie. Voilà, tout simplement.
Donc c'est intéressant ce que tu dis.
J'ai pas regardé France, Bosnie-France. J'ai regardé Arménie, Roumanie et j'ai kiffé.
Mais c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. Est-ce que finalement le fait que les stades soient vides ne va pas en plus impliquer sur la motivation des joueurs de donner le petit supplément d'âme, la petite course en plus, le petit, la petite chose en plus?
Oui, si je me mets à la place des joueurs bosniaques, oui, peut-être. Mais là l'équipe de France a joué deux fois à l'extérieur. Elle a joué à domicile face à une Ukraine, la prestation
non,
était
mais je pense que de jouer de devant des stades vides, bah c'est comme si
moi, je pense qu'on
si
s'habitue à tout.
Oui, tu t'habitues, mais je pense que c'est comme un acteur qui va jouer dans une salle de théâtre vide pour être enregistré à la télé. Je pense que l'émotion n'est pas la même.
Oui, oui, non, je suis.
Et je pense qu'un et d'ailleurs on le voit dans d'autres sports. Il suffit d'interviewer certains tennismen, et je parle pas de Benoît Paire parce que c'est il est particulier, mais il suffit d'entendre un Denis Shapovalov qui est un joueur sérieux, qui gagne des matchs et qui vous dit, moi sur le court, je n'arrive pas à me sublimer parce que le stade est vide, parce que quand on fait un point extraordinaire, il y a personne pour le souligner, il y a personne pour. Il n'y a pas cette émotion dans le stade, avec ses grondements dans le stade.
Là, tu fais une analogie avec le tennis et la relation avec le public est totalement différente.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, je pense que les joueurs sont impactés par ça.
Là où je m'en suis rendu le plus compte, c'est quand j'ai regardé le dernier Boca Junior River. Il manquait vraiment quelque chose. Là, tu sens que la place du public dans certaines rencontres, même si elle est dans toutes, c'est vraiment indéniable. Le public manque vraiment.
Ce sont les supporters qui font le sport professionnel. Ne l'oublions jamais.
Ouais. Vous restez avec nous, chers auditrices.
Moi, je dirais que c'est le foot amateur qui fait le football.
On revient rapidement avec Johnny Fudan, notre invité ce soir.
Time Sport revient dans un instant. Time Sport.
Eh oui, après son magnifique premier ouvrage, justement, auteur de ce star des années 2050, Johnny Fudal est avec nous ce soir avec Razdok, justement. Et Johnny, il nous propose...
Radosk,
excusez-moi. Merci, Mourad. Et il nous propose de lire
Razdok, c'est le caniche de mon voisin.
D'une autre façon. Bonsoir, Johnny.
Bonsoir, Louis-Marie. Bonsoir, Yacine.
Eh oui. Comment ça va?
Bien, content de trouver vous.
Ah ben nous aussi, on est très contents justement. On va entamer cette interview avec la première réaction que pas mal d'auditeurs et même de personnes en plateau nous demandaient, pourquoi ce nom Radosk, qui est-ce?
Alors en fait, Radosk, c'est mon fils, donc Lucas Radosk, et Radosk, ça veut dire...
Oui, oh, alors...
On a suspense.
Hop, on n'a pas eu, oui.
Alors... On fait face à un exercice à trous?
Non, quand même pas. Johnny, alors, petit problème peut-être de liaison avec notre invité. On va essayer de retenter. Oui, il est toujours là.
Bilal, t'as des indices sur qui est Radosk?
Honnêtement, ça aurait pu
être un livre qui
justement, dans la chronique littéraire de Toto Bellozzo.
Et moi, je t'en veux pas en avoir parlé avant.
Non.
Ça a l'air d'être intéressant.
Il est très intéressant.
Je l'ai pas lu,
le bouquin.
Rien qu'en lisant la page.
Non, vraiment.
Ça donne envie, franchement.
Ouais, avec le fameux numéro 13.
Surtout qu'il n'est pas son premier coup d'essai, apparemment. Il avait déjà fait un football 2050.
Il était pas mal. C'était son premier ouvrage. C'était alors Star des années 50. Et le mari aussi était très intéressé.
Il avait choisi le numéro 13.
Ouais. Ah, justement, Voilà, on l'a perdu. Bon. Alors, il est avec nous. C'est bon, il est revenu.
Je suis là.
Johnny.
Je suis là, ouais.
Ouais.
Vous avez lancé les paris pour savoir ce que ça veut dire.
Ouais, bah, voilà.
Exactement.
Alors, Radosk, on vous écoute. C'est du polonais et ça veut dire joueur en polonais.
Ah, joueur. Très bien.
Voilà, joueur.
Et le numéro 13, en fait, ouais. c'est un joueur un peu loser et il est tout le temps sur le banc. Et le numéro 13 en club amateur, c'est en général le premier joueur.
Ouais, mais dans l'histoire de la Pologne, il y a eu de très grands joueurs qui ont porté le numéro 13.
Oui.
Les frères Lech à l'époque, mais
ah non, mais le plus grand joueur de tous les temps, c'est Dejna. Il y avait Lato.
Oui.
Ouais.
Après les frères Lech, ça me parle un peu plus parce que je suis lensois en plus.
Donc, oui,
c'est super.
Les frères Lech.
Ah, le bonsoir à tous ce l'époque. Soir. En plus, on les écoute de ce côté-là, du nord de la France. Oui, Mourad, peut-être une réaction avec notre invité ce soir, Johnny Fudal. On aura aussi Louis-Marie.
Non, j'aurais peut-être des questions au fil de l'eau, mais au niveau de la quatrième de couverture, je me suis vraiment reconnu dans le petit résumé.
Oui,
Radosk, petit-fils d'immigré, la trentaine, plus de 100 kilos. Donc ça, me va,
non,
qui aime
ça
le
va,
foot.
Mourad.
On est deux à sentir visé.
Arrête,
je me suis reconnu dans cette quatrième de couverture.
Attends, c'est pas une tare de faire plus de 100 kilos.
Mais bien sûr.
Quand on fait 1m90, ça va, non?
C'est vrai.
C'est le message que j'essaie de véhiculer dans le livre, justement, c'est peu importe le poids, si on a des rêves, c'est justement on peut les accomplir.
C'est un peu un anti-héros qui va au-delà des clichés, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Un peu comme, je sais pas si vous connaissez, Les Héros du Gazon, une série qui est passée en Belgique, où c'était des mecs un peu nuls qui jouaient au foot. Et ben, donc là, Lugarados, c'est un peu le mec des Héros du Gazon qui va se retrouver, alors je vais pas spoiler, mais par exemple, il va faire une épopée en Coupe de France. Avec son club.
Bah, finalement, c'est un peu l'histoire de l'homme qui se retrouve dans une situation extraordinaire alors que rien ne le prédestinait à se retrouver là.
C'est ça, tout à fait. C'est une aventure humaine hein, parce que ça parle de foot, mais ça aurait pu être du basket, ça aurait pu être du volley parce que le football, bah, moi je l'ai dans le sang. Mais une personne qui n'aime pas forcément le foot, elle peut aimer l'histoire parce que derrière, on suit un mec un peu loser, un peu. Bah, c'est un peu nous, quoi. C'est un peu.
Ouais, et qui s'assume. Et qui s'assume.
Mais c'est vrai que c'est un peu notre génération, les trentenaires qui se cherchent, qui savent pas trop où aller dans une période un peu compliquée. C'est vrai que ça je pense que ça parle beaucoup à cette génération dont tu fais sans doute partie, dont je fais partie, peut-être Mourad aussi.
Ah oui.
Moi, je me sens très touché par ce type d'histoire. Je me retrouve beaucoup là-dedans.
Fils d'immigré,
Bah, petit-fils. Arrière-petit-fils. Non, moi, ça remontait un peu
parce
plus
que
loin.
Louis-Marie, j'aurais dit petit-fils de Napoléon, peut-être.
Pour revenir au bouquin, de ce que je comprends, c'est un peu une apologie un peu de la passion du football hors du système qu'engendre le professionnalisme et ainsi de suite. J'ai l'impression que c'est finalement un grand passionné de foot qui est pas spécialement prédestiné à ça. Et moi, j'aime ce genre d'histoire, justement, qui met en avant cette passion qu'on oublie un petit peu aujourd'hui et aujourd'hui j'ai coutume de dire qu'on aime le football mais pas pour les bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on aime pour le football pour ce qu'il peut nous apporter d'un point de vue social et ainsi de suite et moins pour la passion du terrain, et j'ai l'impression que cette histoire-là elle est un peu basée là-dessus.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre du coup?
Ouais.
C'est un peu basé sur une histoire personnelle parce que moi aussi à 30 ans, moi aussi à plus de 100 kilos, je me suis inscrit dans un club. Et j'ai découvert le football en club aussi à 30 ans. Donc du coup, c'est un peu une histoire très très romancée. Et je pense que le livre, la question que je me suis posée, c'est pourquoi j'aime le foot.
Ouais.
Et c'est justement ce que j'essaie de mettre au niveau des pages.
Pourquoi Radosk en Pologne?
Alors Yacine.
Pourquoi la Pologne?
Pareil, c'est une histoire personnelle. Mes grands-parents étaient mineurs dans le Nord et leurs parents étaient polonais. Donc voilà, et je me suis reconnu aussi dans la mentalité polonaise et la mentalité où aujourd'hui, alors sans vouloir faire plus dans le sociologue, hein, mais aujourd'hui on parle beaucoup de diversité, d'intégration. Ben, moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont aussi eu ce problème. Et qu'on soit immigré maghrébin, qu'on soit immigré africain, qu'on soit immigré antillais, qu'on soit immigré polonais, on est tous des enfants de la France, quoi.
C'est vrai. Ouais. Bah, c'est bien dit, Johnny.
Pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, justement, sur un petit peu l'immigration et l'apport de l'immigration au football français. Moi, justement, comme tu le sais, Bilal, j'ai réalisé un documentaire sur Raymond Kopa, qui était un fils d'immigré polonais, et justement, qui a rencontré ces problématiques, on va dire, de base et d'intégration. Mais, Mais justement, ces grands champions ont toujours su faire fi de des difficultés qu'ils ont rencontrées et justement être des modèles d'intégration, tu vois, d'un point de vue social. Et c'est bien ce que tu dis parce que vraiment les Polonais, c'est vraiment les premières vagues d'immigration dans les années 50, 60. Et aujourd'hui, bah si on a un petit peu le même exemple à travers ton livre, c'est assez sympa de le redécouvrir.
Mais ce qui est intéressant dans ces problématiques d'immigration, parce que Yacine me taquinait sur mon prénom, et effectivement, on se rend compte que finalement, d'où qu'on vienne, et c'est vrai que ça se voit moins peut-être que d'autres autour de cette table, hein, mais effectivement, on vient tous à plus ou moins longue échéance en France de vagues d'immigration. Moi, mes arrière-grands-parents étaient italiens, d'autres anglais, donc la France est un carrefour. Et ça a toujours été une réalité historique. La France est un carrefour en Europe depuis des siècles et des siècles. Et finalement,
c'est un autre débat.
Oui, c'est un autre débat. Mais finalement, le sport a toujours été un vecteur dans ces d'intégration. Et nos plus grands champions, finalement, il est intéressant de voir que les trois grands 10 qui ont chacun marqué leur époque, Coppa, Platini, Zidane, ils sont tous trois fils d'immigrés. Et ils représentent trois différentes vagues d'immigration.
Et aujourd'hui, Mbappé.
Et aujourd'hui, Mbappé, bien sûr, on peut continuer pendant longtemps.
Avant Mbappé, il y a Karim Benzema.
Oui, mais on essaie
quand même dans les vagues d'immigration
de faire plaisir à tout le monde.
Portugais, c'est dommage qu'on n'ait pas. Quoique avec Griezmann.
Robert Pires, rappelle-toi.
Robert Pires, non, mais enfin, dans les grands 10, peut-être un Griezmann aujourd'hui avec ses origines portugaises
représente. Voilà, non, mais. L'immigration portugaise, elle n'est pas aussi importante que. Du tout.
Non, mais peut-être parce que l'immigration portugaise aussi est très affiliée à son pays d'origine et joue pour son pays d'origine.
Exactement.
On aurait pu avoir Rafael Guerrero. Qui aurait pu choisir
Anthony Lopez,
ou Anthony Lopez. Finalement,
on parlait de grandis. Hein.
Voilà, mais eux.
Alors, il n'y en a pas tant que ça,
les grands gardiens. Des grands gardiens, il n'y en a pas beaucoup, Toto. Moi, j'aurais bien aimé voir un Anthony Lopez dans les buts de l'équipe de France.
On est toujours avec Johnny Fudal pour le moment.
Non, mais bien sûr.
Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce. Parce qu'il parle de son histoire personnelle. Quand il a pris la licence à l'âge de 30 ans, comment ça s'est passé au-delà du livre, hein. Comment ça s'est passé dans le club?
Alors, si je parle de mon histoire personnelle, moi, ça s'est super bien passé. On était un melting pot dans l'équipe. On avait toutes les nationalités, on avait toutes les origines, et chacun se respectait en tant que joueur de football. Et pas en tant que petit fils d'un tel. On était vraiment pour jouer au football. Chacun amenait sa pierre à l'édifice. Je dis souvent dans le livre, chacun est une pierre dans un mur solide. Ouais. Et qui est là pour bloquer justement les mentalités de personnes qui n'aiment pas justement la diversité.
Donc votre livre quelque part à travers le football, à travers vous, à travers votre histoire personnelle, c'est un hymne au vivre ensemble.
C'est ça, tout à fait. Et que ça soit au niveau diversité
des origines religieuses.
Voilà, et même sexuelle, donc parce qu'il y a un thème sur l'homophobie. Et également sur le handicap, parce que il y a une personne qui est déficiente de auditive, et donc qui aussi se fait intégrer dans l'équipe.
Quand t'es arrivé, quand t'as commencé le foot, Toto, à 30 ans, tu t'es fait bizuter un petit peu. Est-ce qu'il y a une histoire, une anecdote avec une histoire de valise peut-être, non, de valise de non portée, ben, un joueur.
Oui, alors moi, c'est pas une expérience personnelle, mais à la fin, donc dans au troisième chapitre, le joueur devient intendant d'une équipe professionnelle, et il y a un personnage qui ressemble un peu à Zlatan.
Ah. Ouais.
Et justement, je suis inspiré d'une anecdote de Zlatan qui est arrivé au vestiaire pour un match à l'extérieur et s'étonnait qu'il n'avait pas ses valises et il s'attendait à ce que ses coéquipiers ou son intendant portent ses valises à la sortie du bus.
Ah, donc le personnage, il rencontre quand même des faits inspirés de la réalité du football professionnel qu'on connaît quand même.
Peut-être parce qu'il est tellement passionné qu'il souhaiterait justement vivre. Et c'est un peu ce que vivent les grands champions.
Un livre fédérateur aussi.
Moi, je faisais mes lacets en commençant par mon pied droit, par exemple, hommage à la pub Zinedine Zidane.
Ah ouais, on s'en souvient.
Je vais pas citer la marque, mais
j'ai pas lu compris. Alors, malheureusement, Bilal ne l'a pas transmis, mais je pense que ça pourrait être une très belle histoire à devenir un film.
Ouais, pourquoi pas.
Si Netflix nous écoute.
Franchement, hein, ça donne à rêver. Ça donne à rêver. Le fait qu'il comment il raconte son histoire, je pense que c'est un scénario complètement.
Ouais, parce que c'est aux antipodes de la fameuse histoire des ligaments croisés. Là, on commence par la fin, en fait.
Ouais.
En fait, le football a été comme une passion, et c'est à 30 ans qu'on s'inscrit et qu'on veut mettre en pratique notre passion qu'on a toujours vécue, peut-être à travers la télévision, etc.
Ouais. Là, le joueur, il ne se fait pas les ligaments croisés, il se fait les croisés. C'est un marque de fromage.
Ça, c'est pas mal.
Je pense que Mourad a imaginé le livre et notre ami l'a écrit.
Exactement. Ouais. C'est pour ça que je te dis, on remplace Radosk par mon prénom.
De droit d'auteur. Hein.
Ouais.
Peut-être pour le tome 2, peut-être.
Ouais, je ne comprends pas. Ah ben voilà, Denis, il y a aussi Mourad, consultant dans cette émission qui est Top Sport. Ah ben, qui serait prêt, pourquoi pas.
Ouais, on ouvrage, j'ai trouvé l'acteur principal pour l'adaptation Netflix. Voilà, c'est bon.
C'est ça, moi.
C'est parti.
Ah, il a pas vraiment le type polonais.
Non, on pourra, tu sais, de l'histoire de l'homme, l'homme a beaucoup voyagé, donc on pourra...
Aussi. Non, mais cherche pas, tu fais pas polonais.
Aussi.
Non,
mais...
aussi. Je ne cherchais pas à faire polonais.
Toto fait italien, en plus, c'est bon.
C'est pas vrai, c'est pas vrai.
Yacine fait bosniaque aussi.
C'est le monde.
Ouais.
Du sud de la Pologne.
Je me sens très bien dans ma peau, il n'y a aucun souci.
Le message avant de se quitter, Johnny. Le message à faire passer avec cet ouvrage, on le rappelle, Razdok. Ouais.
Radosk.
Le message, c'est que le football est beau et que c'est encore plus beau quand on est tous ensemble, quoi. C'est le foot, quoi. C'est beau. On en parle tous les soirs quand je vous écoute à l'émission. C'est un thème qui est fédérateur, c'est un thème qui fait réagir, qu'on aime, qu'on déteste. Mais quand on est dedans, c'est beau, quoi. C'est le football, c'est beau, quoi.
En tout cas, moi j'ai lu deux pages, j'ai beaucoup aimé votre livre.
Très intéressant.
Et franchement, vraiment, vous avez déjà.
On va te l'offrir. On va te l'offrir, Yacine. Voilà.
Je vais l'acheter.
En plus, il avait dédicacé. C'est ça. Il
est avec grand plaisir.
L'équipe de Beurre FM. Un grand merci, Johnny.
Merci à vous et ne changez pas, vous êtes top.
C'est super.
Merci, Johnny.
C'est vraiment super. Auteur et aussi fervent auditeur de Beurre FM. Un grand merci. La suite des programmes, les sujets à venir. On va parler aussi de l'Allemagne. Et sans oublier aussi, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, de Lyon. Et un petit mot concernant le MMA, parce que là aussi, il y a pas mal d'auditeurs qui aimeraient réagir.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman.
Voilà, allez. De retour pour la dernière partie de cette émission qui est Time Sport jusqu'à 20h. T'es tout souriant comme ça. Toto Bellozzo, tu vas t'arrêter maintenant. Ouais. Tu vas t'arrêter. Arrête Yacine. Il y a les auditeurs, il y a les auditrices.
Pourquoi
oui.
Pourquoi il se fait appeler Toto Bellozzo?
Toto Bellozzo. Parce que je crois qu'il a été fan de Toto Schillaci aussi.
Voilà, Toto Schillaci.
Voilà, c'est tout simplement cela, quoi. Alors, on va parler de l'Allemagne.
Time Sport, la victoire.
Eh oui, la presse allemande, Louis-Marie, n'a pas été tendre avec l'équipe de Joachim Löw, battue mercredi par justement cette équipe de Macédoine du Nord. On le rappelle, le score 2-1. Eh oui, l'Allemagne, fin d'un cycle peut-être, et d'une époque même.
Bah, ça fait un petit peu longtemps que c'est la fin d'un cycle en Allemagne. Faut pas oublier qu'ils ont raté que ça s'est mal passé lors de la dernière Coupe du Monde. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi Joachim Löw est toujours en place. On parlait de Deschamps, mais Joachim Löw, il est là depuis 2006.
C'est vrai, ça
et fait longtemps. Effectivement, il a mené l'Allemagne à la Coupe du Monde, au triomphe. Mais depuis, c'est laborieux.
Il aurait pu sortir par la grande porte.
Il aurait pu sortir par la grande porte, parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est compliqué. Plusieurs années qu'il a du mal à faire la transition de génération. D'ailleurs, on parle encore de rappeler une nouvelle fois les anciens, de se retrouver encore avec Boateng, Gummels, des joueurs qui sont, en tout cas, qui sont peut-être encore au niveau, ça dépend des jours, mais en tout cas, il y a quand même du monde en Allemagne.
Il y a un problème d'alchimie. Je pense que même les leaders techniques aujourd'hui du Bayern de Munich, je pense à Gnabry, je pense à Goretzka, on a l'impression qu'il y a cette alchimie, on va dire, collective qui ne prend pas avec Joachim Löw. Est-ce qu'il n'y a plus ce boost psychologique? Est-ce qu'il a perdu la mainmise sur ses cadres?
Moi, je pense
sur
surtout, c'est que...
Ou est-ce que, simplement, il y a une chose qui serait importante de souligner, c'est est-ce que l'étau ne se resserre pas entre les grandes nations du football et les petites écuries européennes? On voit que la France...
Là, je suis entièrement d'accord.
Voilà, la France a aussi subi une déconvenue face à la Finlande à domicile. Le Kosovo, hier, a rendu la partie difficile face à l'Espagne. Le Luxembourg, l'Arménie aussi, pour faire plaisir à Yacine. Le Luxembourg face au Portugal. Donc j'ai l'impression aujourd'hui
il y a un nivellement des valeurs.
Il y a une formation qui est homogénéisée aujourd'hui. La plupart, il y a aussi la loi des Bahamas qui fait que certains binationaux peuvent jouer pour leur pays d'origine. C'est le cas aussi pour les pays européens. Je pense notamment au Kosovo qui bénéficie beaucoup de joueurs formés dans les plus grands clubs en Allemagne, en Suisse, etc. Et donc ça permet de combler, et l'Arménie aussi pour faire encore plaisir à Yacine, et ça permet justement de combler ce niveau et de voir des joueurs comme Pandev aussi. Pandev qui est là depuis J'ai l'impression avec sa calvitie qui existe,
il a 35 ans
depuis l'époque de Mourinho et qui performe encore et ça fait plaisir. Et à la fin, c'est la Macédoine qui gagne.
Non, mais
pour changer un peu le proverbe.
La Macédoine du Nord, hein.
La Macédoine du Nord, bien sûr. Non, mais si on refait la géopolitique de la Yougoslavie, la Yougoslavie aujourd'hui, c'est le Brésil de l'Europe actuellement.
Donc, le Brésil de l'Europe.
Comment est-ce que tu expliques?
Ce n'est plus une référence en quoi que ce soit.
Oui, mais comment est-ce que tu expliques que la Croatie, 4 millions d'habitants, fasse une finale de Coupe du Monde et une équipe des moins de 20 ans qui fasse une finale de Coupe du Monde, etc. Donc là, si on parle de l'ex-Yougoslavie, c'est un vivier de football. Mais le football est dans leur ADN. Et des déconvenus comme ça de temps en temps, ce ne sont pas des surprises.
C'est un vivier de sport absolu. Dans tous les sports, ils sont présents.
Bien sûr.
Ce qui est beau dans le foot,
le hand, le basket.
Ce qui est beau dans
tennis,
le foot, si je peux me permettre, les gars, ouais. Non, après, c'est. J'ai juste une petite phrase, après, j'arrête. Ce qui est beau dans le foot, c'est que justement, le foot ne répond à quasiment aucune logique. C'est-à-dire que tu peux avoir un pays grand comme la Russie qui va s'incliner face à un tout petit pays comme l'Espagne en proportion. Et justement, moi, là où je suis d'accord avec toi, Morad, c'est qu'on a, une forme d'homogénéisation du football, où on a un niveau moyen des grosses nations qui commencent un petit peu à régresser. Beaucoup d'équipes un peu vieillissantes qui partent un petit peu en fin de cycle. Je pense l'Allemagne est dans ce cas de figure. La France commence un petit peu à y être, bien qu'elle ait de fortes ressources. L'Espagne est dans le même registre. Aujourd'hui, l'Espagne commence vraiment à avoir une grosse problématique pour pouvoir
de renouvellement. Ouais.
Voilà,
comment ça s'est soufflé.
De renouvellement. Et dans le même temps, on a des équipes comme la Macédoine qui sortent du bosquet et ça fait plaisir de voir ce genre de football-là.
Non, mais tu as raison.
La Hongrie, ce que fait
mais
la Hongrie,
ça ne suffit pas
ce que fait
à expliquer ces problématiques-là. Tu as tout à fait raison qu'il y a un nivellement et qu'effectivement, il y a plus de professionnalisme dans ces petits pays qui sont beaucoup plus structurés qu'avant. Là, on est d'accord. Mais pour revenir à ce que disait Morad, en disant...
Rapidement.
Oui, on a un problème, Niabri, tout ça, ils n'ont pas pris les clés, mais parce qu'on leur a pas donné les clés. C'est difficile de prendre les clés d'une destinée. Ces joueurs-là devraient être des leaders, devraient être des cadres de l'équipe.
Tu sais, Mbappé, en 2018, il n'a pas attendu à ce qu'on lui donne les clés, par exemple.
Mais...
C'est à eux aussi de faire, de faire leur part de travail.
Oui, mais en 2018, il était dans une équipe qui n'était pas championne du monde.
Il faut suivre un petit peu l'actualité de ce qui est.
Il a fait en sorte qu'il le devienne.
Alors, on termine avec l'Allemagne.
Joachim Löw, il ne fait plus l'unanimité en Allemagne depuis pratiquement 4 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que son discours, il est complètement usé. Il ne sert, franchement, quand on voit cette équipe allemande jouer avec le potentiel qu'il y a, vieillissant ou pas, franchement, c'est pas la Macédoine du Nord qui va arrêter l'Allemagne. Aujourd'hui,
il y a un problème au niveau du collectif.
Tactiquement, l'Allemagne,
au niveau psychologique.
Tactiquement, l'Allemagne n'est pas en place, tout simplement.
Mais parce que je pense qu'ils n'ont pas su renouveler les générations et passer le flambeau. D'ailleurs, on voit encore, mais comme en Espagne, où Ramos est toujours le capitaine indiscutable.
Il faut qu'on arrête avec le truc de génération parce que Ibra, à 40 ans, ce qu'il fait, très peu de footballeurs le font.
Mais c'est pas une histoire de niveau individuel.
C'est quoi,
Pandev qui a 37 ans?
C'est juste que,
face
en fait, très souvent, quand tu as une grande génération, la génération d'après, elle est marquée par les anciens. Elle n'arrive pas à prendre le pouvoir parce qu'il y a des grands anciens qui restent longtemps. Même ils peuvent conserver leur niveau.
Ça, pour qu'ils prennent le pouvoir, il faut un autre discours, il faut un autre.
Non, mais ça, je te dis pas le contraire.
Oui,
mais je dis juste que, du coup, à l'arrivée, mais les deux problèmes se rejoignent. Le discours de Joachim Löw, à mon avis, passe moins. Et il n'a pas les relais
c'est
dans le vestiaire
discours,
parce que les
place,
joueurs
place,
les joueurs cadres
jeu,
les joueurs cadres n'ont pas les joueurs cadres ne sont plus les mêmes
après les mais justement là il a plus la stabilité la défensive qu'il avait auparavant
bien sûr,
avec un Rüdiger t'as moins de garanties défensives par exemple un Rüdiger qui est quand même même si Thomas Tuchel l'a fait renaître, mais c'est quand même de savoir être le leader de la défense de la Mannschaft, c'est quand même assez inquiétant.
On voit qu'il
y a un fossé entre
après il y a un creux générationnel en défense
entre les joueurs offensifs et les joueurs qui composent toute la stabilité défensive de l'Allemagne.
Ils ont pas une génération grandiose en Allemagne.
C'est intéressant. Imagine cette équipe allemande avec un Tuchel à sa tête. Je pense qu'elle aurait une.
On serait dans du total football.
Bilal, il y a aussi. Il y a aussi le fait que l'équipe d'Allemagne, elle est quand même assez calquée sur le Bayern de Munich. Et malheureusement, Lewandowski. Et Lewandowski, d'un point de vue offensif, c'est un peu la clé de voûte du Bayern. Et là, quand tu vois en équipe d'Allemagne, tu retrouves la même ossature que le Bayern, mais sans Lewandowski. Donc, ça les avantage d'avoir justement une grosse ossature de la meilleure équipe allemande. Mais en même temps, de ne pas avoir peut-être
ces
déclencheurs qui sont Müller, qui est aujourd'hui de côté, et Lewandowski qui n'est pas allemand.
Ce que tu dis, c'est que généralement, quand il y a des bons joueurs en Allemagne, et pour moi, il y a une génération qui est un peu plus faible, il suffit de voir qu'au Bayern Munich, aujourd'hui en défense, il n'y a plus de joueurs allemands. Donc c'est pas un hasard.
C'est pas faux. C'est pas
et en attaque, en pointe, il y a
alors
pas de joueur.
Alors que c'est le comble du football allemand, justement.
Ça a toujours été, ça a toujours été la force du Bayern, de l'Allemagne, c'est que les meilleurs joueurs étaient au Bayern.
Exactement.
Là, s'il y a plus de bons joueurs en défense au Bayern, c'est bien qu'il y en a peut-être pas en Allemagne.
D'habitude, le Bayern et prenait tous les meilleurs joueurs allemands. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui ne sont pas allemands au Bayern.
Allez, donc après là, l'Allemagne.
Ben oui.
Ben les joueurs allemands s'expatrient de plus en plus. Ben c'est la mondialisation du football, mais c'est un autre débat.
Alors, on revient sur Lyon.
Time Time Sport. Le duel. Le duel.
Allez, on va essayer aussi de parler de MMA, mais dans un premier temps, Lyon, qui se prépare, à une révolution, comme on le disait dans cette introduction de cette émission. Garcia, sorti peut-être, et justement, l'arrivée d'un certain Galtier, Mourad.
J'ai vu la conférence de presse de l'AS. Pour l'instant, il n'y a ni de départ de Garcia, ni d'arrivée de Galtier.
Le confrère du Parisien.
Ils ont dit justement qu'ils allaient faire le point en fin de saison, puisque des objectifs lui ont été attribués. Ça sera basé sur la qualification en Ligue des Champions, éventuellement le gain d'un titre ou pas, peut-être le championnat, ils sont encore en lice en Coupe de France, d'ailleurs ils vont jouer face au Red Star dans pas très longtemps, donc je pense que ce sera à l'issue de cette saison qu'on saura si Rudy Garcia sera renouvelé ou pas. Après, on parle de révolution. Pour moi, une révolution, c'est un soulèvement des joueurs face à l'autorité. Je vois mal Toko Ekambi aller soulever Jean-Michel Aulas. Au contraire, je vois plus lui baiser les pieds.
Quand on parle suite à
levée d'options d'achat de Villarreal.
L'arrivée de Galtier à Lyon, c'est une révolution. En France, ici, quand ils aiment un entraîneur, il a l'impression qu'il a inventé le football.
C'est plutôt les chaises musicales.
La vraie révolution côté lyonnais, elle vient du côté d'Aulas avec une proposition de revoir un petit peu le modèle de développement du football lyonnais dans un futur proche, c'est-à-dire que il propose de baisser les salaires de 25% pour les salaires de plus de 50 000 euros et de proposer en contrepartie de payer les joueurs en action. Et finalement, ça permettrait peut-être aux joueurs de s'investir d'une façon économique dans le club dans lequel ils s'engagent, de pouvoir peut-être aussi d'avoir des salaires moindres, mais d'être dans une forme de prime au résultat, c'est-à-dire que
et des intéressements plus importants qui obligeraient les joueurs à
et je pense que c'est
donc ce serait des commerciaux, des vendeurs de double vitrage les joueurs de foot, ils seraient payés aux objectifs.
Ça ressemble de plus en plus à une entreprise.
Mais Ola c'est vraiment en train d'essayer de s'adapter au football actuel.
La situation économique ça a toujours été un révolutionnaire.
Et par rapport à son
business
model,
moi je suis pas fan de payer des joueurs à la performance, si c'est ce que sous-entend.
Il est sur une logique où il sait qu'on est obligé de baisser les salaires des joueurs et d'essayer de convaincre les joueurs de baisser leurs salaires.
Non, mais là le problème c'est
qu'on
rentre dans une période où globalement économiquement ça va être plus compliqué, tout du moins pendant un temps, donc il faut s'adapter et Aulas va s'adapter, ça j'ai pas de doute à ça, et je pense que globalement ça va, il y a des choses qui vont arriver de ce point de vue là qu'est-ce qui va se passer exactement, on va voir. Pour revenir sur le sujet de l'entraîneur, juste pour dire un mot là-dessus, moi je pense que depuis le début de l'année, de toute façon, on voyait bien que Rudy Garcia est sur un siège éjectable et tout dépendra, comme disait Mourad, de ses résultats, et je pense que Galtier n'est loin d'être le seul candidat. Il y a d'autres entraîneurs qui peuvent sortir du chapeau. Moi, il y en a un auquel je pense, alors je suis peut-être le seul à le penser, mais que Julien Stéphan se soit rendu libre avant la fin de la saison, c'est pas du tout anodin. Je pense qu'il fera partie de la shortlist et qu'il a tout à fait le profil pour être Aulas compatible au sein de ce club.
Je pense que le costume de Lyonnais est trop grand pour lui, en fait.
Même Rennes, c'était trop gros pour lui. Si Lyon veut grandir, il n'y a aucun entraîneur en France qui est capable de faire grandir Lyon.
Je pense que la solution, elle est pas en Ligue 1, tout simplement. Et je pense que donner sa chance à Camavinga, c'est pas forcément un critère de qualitatif pour pouvoir prétendre entraîner l'Olympique Lyonnais.
Je ne prétends pas qu'il en ait les qualités. Mmh. Moi, je trouve que on se plaint trop souvent en France de dire regardez à l'étranger, ils arrivent à faire émerger des jeunes coachs. En France, on tourne toujours avec les mêmes.
Il a parlé de Furlan tout à l'heure.
Ce sont toujours les mêmes qui font des chaises musicales. Alors que finalement, Julien Stéphan, il a des qualités, des défauts. Il est encore en début de carrière. On peut dire que ça n'a pas été parfait.
Julien Stéphan, j'ai l'impression que c'est un élève sorti d'HEC, un jeune cadre dynamique parce qu'il a fait une grande école, on va lui donner les clés du plus grand club de France, c'est Paris Saint-Germain.
Mourad, j'avais les mêmes a priori que toi. Il
a son réseau dans le monde du football, c'est son papa.
J'avais les mêmes a priori que toi. Justement, de par sa filiation, je me suis dit, voilà, encore un mec parvenu à qui on a donné un coup de pouce pour pouvoir arriver là. Et finalement, quand tu vois... on va dire dans le contenu, parce que tout à l'heure c'était le sujet, dans le contenu, je trouve que ce qu'il faisait à Rennes, C'était vraiment pas mal.
Et si on pouvait donner la gestion, la chance... moi, je pense à la gestion d'Mbaye Niang, notamment. Je pense à la gestion
Alors, Mbaye Niang, c'est quand même un joueur qui a été.
Il a joué sans avant-centre. Je pense au trading aussi, qu'il a appliqué comme ça à l'aveuglette.
Je te dis pas qu'il est parfait, ça.
Il avait en aucun cas son mot à dire sur la politique du club.
C'est un début de carrière.
On peut en débattre.
C'est un début de carrière. Mais Mbaye Niang a quand même posé problème dans tous les clubs.
Merci. Une équipe de CFA.
On reviendra, c'est promis, sur un tel.
D'accord, mais c'est pas le sujet.
Je pense que la France.
Louis-Marie, ne t'inquiète pas. Merci, Yacine. La dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Ouais, on fera une spéciale, rien que pour toi, Toto Bellozzo, et aussi Mourad, Louis-Marie et Yacine. Parce que moi, j'ai une petite surprise après pour vous, après cette émission. Les auditeurs, les auditrices de Beurre FM, on va s'attarder cette fois-ci sur le MMA. Et justement, facile vainqueur, et oui, au deuxième round de Stipe Miocic, excusez-moi, samedi, du côté de Las Vegas, Francis Ngannou a été récompensé par un chèque, Yacine, de $730,000, l'équivalent de 621,000 euros. Et le Camerounais, écoutez bien, nouveau champion des poids lourds de l'UFC, a pourtant touché moins d'argent que son adversaire. Voilà. Allez, je crois qu'on a même un auditeur qui veut réagir aussi. Il a fait le 0153483000. Oui, réaction avec toi, Yacine.
S'il a signé un contrat, il sait pertinemment combien il va toucher en cas de victoire, en cas de défaite. Ouais. Dans le monde de la boxe, dans le monde des arts martiaux.
Souvent... C'est le travail de son manager aussi, à lui d'aller négocier le meilleur contrat possible.
Non, mais ça, c'est des choses qui... C'est un autre monde, une façon de faire. Donc,
C'est pas lié uniquement aux performances, c'est ce qu'essaye de dire Yacine. C'est que c'est négocié en amont contractuellement avant, par rapport au prestige et à la renommée et aux ventes éventuelles que vont provoquer ces athlètes. Donc je ne crois pas que si c'était le sujet, que ça soit une histoire de nationalité, quoi que ce soit. Je crois que c'est une histoire de promoteur, de manager.
J'ai jamais dit problème de nationalité. Justement, j'essaye de parler avec vous, débat, talk show.
Parce que
Bilal, on donne la parole. Bilal, on donne la parole. Je vous ai donné la parole. On va voir la parole maintenant d'un auditeur qui va essayer de réagir. On va revenir après avec toi, Louis-Marie, Mourad et notre Toto Bellozzo. Mourad, bonsoir.
Bonsoir.
Karim.
Bonsoir. Non, là c'est Mourad. C'est Mourad qui nous appelle concernant le MMA. Et le champion, justement, en titre dans la catégorie poids lourd de cette ligue nord-américaine. Mourad, on vous écoute.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Bonsoir, Mourad.
J'ai entendu des belles réactions. La réaction qui m'a plu, c'est par rapport à la renommée du combattant. C'est exactement ça à l'UFC. C'est-à-dire que c'est là qu'a perdu, il a pris plus d'argent que lui, mais il était invaincu, le mec. Il a battu tous les champions possibles et imaginables dans sa catégorie. Donc, bon, forcément, face à Francis, les bookmakers voyaient gagnant. Et après, le projet de Dana White, le patron de l'UFC, c'est grâce à Francis de pouvoir créer un événement à Paris quand il pourra défendre son titre. Et là, à ce moment-là, il sera revu à la hausse son contrat et le
peut-être tout simplement
parce que plus il vendra de tickets, plus il gagnera une grosse somme d'argent, bien sûr, s'il gagne.
Si on revient à la normale.
Ouais.
McGregor qui a commencé, il gagnait pas des clopinettes. Hein,
au début, c'est ça.
Plus il a commencé à gagner,
c'est ça.
Il faisait plus d'argent. Hein. Maintenant, McGregor, il fait un combat, même s'il perd, il prend 8 millions d'euros dans sa poche.
Ah non, mais maintenant, McGregor, il peut faire un combat contre un ours et une loutre, il prendra des millions, donc il n'y a pas de sujet.
C'est vrai.
Mais comme le dit notre auditeur, en fait, les champions vont gagner le droit de gagner de l'argent. Ça peut paraître bizarre, mais avant de gagner de l'argent, il faut montrer patte blanche, il faut progresser dans les rankings, avoir des suiveurs, des followers, il faut avoir gagné pour ensuite que ça se concrétise.
Demain, si Mayweather décide de combattre en MMA, je pense qu'il y aurait aucun qui pouvait toucher autant d'argent que lui.
Bien sûr.
Il n'y a personne qui a son nom. Uniquement quand il associe son nom à un combat, il y a tous les sponsors, tous les partenaires économiques qui vont arriver. Donc c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, on est content pour lui d'avoir gagné déjà cette somme d'argent. Quand on voit le passé, un passé qui n'est pas si lointain dans les conditions dans lesquelles quand il est arrivé en France, on est heureux pour lui. Et ben j'espère que il va faire un combat à Paris qui va.
Ça serait pas mal.
Ça serait
en plus.
C'est la ville qu'il a accueilli quand même.
Ouais.
Il lui doit ça.
Toto, peut-être une réaction.
Non, mais je comprends. Enfin, là, je découvre un petit peu le fonctionnement. Et finalement, le gagnant n'a pas tout gagné.
C'est pas un prize money comme dans d'autres sports.
Et le perdant n'a pas tout perdu. Et c'est marrant de voir ce fonctionnement-là un petit peu à la notoriété.
Mais pourquoi ? Parce que c'est un fonctionnement qui est mis en place aux États-Unis. Et aux États-Unis, c'est un fonctionnement de show. On est sur le spectacle. Et donc on amène des. C'est comme un acteur.
Ouais.
Un acte. Il y a dans certains films, c'est pas l'acteur qui a le premier rôle qui a le plus gros chèque. Pourquoi? Parce que finalement, peut-être que le troisième rôle c'est Tom Cruise et que celui qui est le plus longtemps à l'écran est moins connu que lui. Mais c'est pas grave. C'est Tom Cruise qui va amener les gens dans les salles. Parce que c'est sur son nom qu'on va amener les partenaires, qu'on va amener les diffuseurs, qu'on va amener les producteurs, les annonceurs. Et à partir de là, c'est lui qui fait rapporter l'argent et qui fait se monter le projet. Parce qu'un combat, il faut pouvoir le monter. Et à partir du moment où on monte un combat sur un nom, c'est celui qui va gagner le plus.
C'est pour ça qu'en France, depuis le départ des frères Acarias, par exemple dans le monde de la boxe, il n'y a plus de grands shows, de grands spectacles. Aujourd'hui, peut-être dans la MMA, le fait d'avoir gagné ce combat aux États-Unis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait ramener de l'autorité en France, parce que faire revenir le spectacle en France, c'est très compliqué. Donc je pense que c'est la bonne étoile.
En tout cas,
je préfère le système de rémunération qui est proposé actuellement dans les MMA que le système qui a été proposé par Jean-Michel Aulas où on paye les joueurs en action. Où là, on dévalue totalement le marché du football.
C'est la même chose, justement, je trouve que c'est un peu plus dangereux.
Donc voilà.
Mourad, pour terminer avec notre auditeur.
Alors moi, pour terminer, non. Déjà, Francis, il aura une belle opportunité contre John Jones. Après, je suis pas sûr qu'il puisse gagner, par contre, hein, parce que l'autre, par contre, en face, c'est un monstre.
Ouais.
Mais il a son opportunité.
Il est très énervé.
Et s'il le gagne, là, vraiment, en matière de price money, et si c'est un combat qui se passera à Las Vegas ou je sais où, en public, parce que c'était le dernier combat MMA qu'il y a eu, là, le week-end dernier, sans public. Maintenant, apparemment, ça y est, ils vont commencer à faire rentrer des jauges. Et, pour lui, c'est une super opportunité et surtout une belle carrière, hein, avec tout ce qu'il a galéré. Mais faut pas oublier Cyril Kane, qui lui aussi en UFC, et c'est le phénomène français qui va vraiment, vraiment atteindre les sommets.
Est-ce qu'il est français ou il est camerounais?
Cyril Gagne ou...
Francis
est d'origine camerounaise.
Il est français.
Alors moi j'ai vu des articles, justement être très virulent, mais quand il gagne, apparemment il est français, quand il l'athlète est d'origine camerounaise.
Je crois qu'il combat pour la France. Mais je suis pas certain.
Il est français en tout cas, il est né en France.
Il a la nationalité.
Merci Mourad d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe aussi de Tam Sport, en la personne de Mourad, de Louis-Marie, de Yacine et de Toto Bellozzo. On se donne rendez-vous dès demain à partir de 19h et la suite des programmes sur l'antenne de Beur FM avec Café des Artistes et Mourad.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beur FM.